VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du mercredi 25 mars 2020. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia pour le journal et Jacques Aristide pour la partie magazine. D'abord les titres. La République démocratique du Congo décrète à son tour l'état d'urgence contre la pandémie de coronavirus. La Chine a levé mercredi les restrictions dans la province du Hubei, épicentre de la pandémie qui a fait plus de 18 000 morts dans le monde depuis décembre. En Guinée, plusieurs personnes ont été tuées ces jours derniers à Zérékoré, ville secouée par des violences meurtrières post-référendum. Au Tchad, près de 100 militaires ont été tués par Boko Haram dans la province du lac Tchad. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Donc, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a décrété l'état d'urgence et interdit tout voyage entre Kinshasa et les provinces. Le point avec Eddy Issango.
Le président Félix Tshisekedi a annoncé hier soir l'état d'urgence et interdit tout voyage entre Kinshasa et les provinces au regard de l'ampleur de la pandémie de COVID-19 avec plus de 45 personnes atteintes, 3 morts et 1 guéri. Le chef de l'État congolais a regretté que ses concitoyens ne suivent pas les mesures qu'il avait édictées une semaine plus tôt pour lutter contre le nouveau coronavirus. Il a annoncé qu'il va recourir à la police et à l'armée pour contraindre les Congolais à observer les mesures afin d'empêcher l'expansion du virus. L'état d'urgence a été décrété après une réunion la veille avec les dirigeants de deux chambres du Parlement et d'autres institutions. Parmi les mesures supplémentaires annoncées mardi, l'interdiction de tout voyage entre Kinshasa et les provinces et vice-versa. Seuls les avions et les bateaux cargo sont autorisés de voyager, mais leurs équipages seront soumis à un strict contrôle, a déclaré M. Tshisekedi. Une semaine plus tôt, il avait pris pareille mesure, mais seulement pour l'extérieur du pays. Il a fait appel à la solidarité nationale pour les fonds mis en place afin de lutter contre le COVID-19 en cette période de confinement.
Avec 1800 cas et près de 60 morts contre plus de 404 000 cas de contamination et plus de 18 000 décès au total dans le monde, selon un bilan de l'AFP, l'Afrique a été jusqu'à présent relativement épargnée par la pandémie de coronavirus. Mais avec la multiplication des cas, plusieurs pays ont durci leurs mesures de sécurité. Le Maroc mise sur la chloroquine et le Cameroun a enregistré son premier mort, Claire Morin-Gibourg.
Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone sont passés en état d'urgence sanitaire avec couvre-feu nocturne et l'Afrique du Sud se prépare au confinement. Le premier décès d'un patient atteint du nouveau coronavirus a été enregistré au Cameroun hier. L'homme avait été détecté positif au virus le 14 mars, 10 jours après son retour d'Italie et était alors le 3e cas de coronavirus au Cameroun. Le Maroc a décidé de recourir à la chloroquine pour traiter les patients souffrant du Covid-19. Rabat avait demandé la semaine dernière à la filiale marocaine du groupe français Sanofi de remettre tout son stock de Nivaquine et de Plaquenil, deux médicaments contenant de la chloroquine. Le royaume chérifien s'est aussi lancé dans la production de masques sanitaires. Plus de 1000 passagers algériens sont bloqués dans le principal aéroport d'Istanbul en raison de l'interdiction des vols pour lutter contre la propagation du virus par l'Algérie. Enfin, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a annoncé hier qu'un paquet financier européen allait être mobilisé pour aider les pays les plus vulnérables, notamment en Afrique, à faire face à la pandémie de Covid-19.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a appelé le G20 à soutenir les économies africaines en allégeant leurs dettes et en préparant un plan d'aide financière d'urgence de 150 milliards de dollars. la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, une institution de la Ligue arabe basée à Khartoum, a annoncé qu'elle a loué une enveloppe de 100 millions de dollars pour aider l'Afrique subsaharienne face à la crise du coronavirus. Des couvre-feux existent ailleurs en Afrique, notamment en Mauritanie, en Égypte et au Gabon. Les cas ont doublé au Rwanda, 36, et au Burkina Faso, 114 cas ont été répertoriés, ainsi que 4 décès. Le Cap-Vert et le Niger ont annoncé mardi leur premier décès, après le Zimbabwe et le Nigeria lundi. L'épidémie continue par ailleurs de s'étendre rapidement en Afrique du Sud, pays le plus touché du continent, avec 554 cas de contamination. La Chine, où la pandémie a commencé, a levé mercredi les restrictions drastiques imposées depuis plusieurs mois dans la province du Hubei, épicentre du coronavirus qui a fait donc plus de 18 000 morts dans le monde depuis décembre. Aucun cas de contamination locale n'a été détecté en 24 heures dans le pays, mais 47 cas importés de l'étranger ont été identifiés sur cette période, ont indiqué les autorités sanitaires nationales. Il y a eu plus de 81 200 cas de COVID-19 en Chine et 3281 personnes y ont succombé. Le nombre de nouveaux cas a considérablement diminué au cours du mois écoulé. L'Iran dit ne pas vouloir de la présence de forces étrangères pour lutter contre le COVID-19, une déclaration qui fait planer le doute sur une mission annoncée par MSF dans ce pays où le bilan de l'épidémie approche les 2000 morts. Abdourahman Dia.
Médecins sans frontières, qui avait annoncé dimanche l'envoi d'une équipe et de matériel en Iran, a indiqué que son opération est suspendue dans l'attente d'une notification officielle. Du fait de la mise en œuvre du plan national de mobilisation contre le coronavirus et de la pleine utilisation des capacités médicales des forces armées, il n'est pas nécessaire pour l'instant que des lits d'hôpitaux soient créés par des forces étrangères et la présence de celles-ci est exclue, a déclaré Alizera Wahabbazeh, conseiller du ministre de la Santé. Il a fait ses déclarations sur Twitter après la multiplication d'attaques de la part des ultra-conservateurs, accusant le personnel des MSF d'être des espions et appelant à ne pas les laisser entrer dans le pays. L'ONG française avait annoncé dimanche l'envoi d'un hôpital gonflable de 50 lits et d'une équipe d'urgence de 9 personnes à Isfahan, la troisième ville d'Iran, dans le but de soulager la pression sur le système de santé local. À Genève, Michel Bachelet, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a demandé mardi que les sanctions internationales frappant l'Iran, le Venezuela, Cuba et la Corée du Nord soient assouplies ou suspendues afin de permettre à ces pays d'obtenir les fournitures et équipements médicaux essentiels pour faire face à l'épidémie.
L'Espagne a demandé l'aide humanitaire de l'OTAN alors qu'elle a enregistré plus de 500 morts du COVID-19 en 24 heures. Le nombre de décès est reparti à la hausse mardi en Italie après 2 jours de baisse. L'Irlande a ordonné la fermeture de tous les commerces et lieux publics non essentiels. Les 1,3 milliard d'habitants de l'Inde sont soumis à un verrouillage total pendant 21 jours, entre autres mesures prises dans Le Monde, Nathalie Barge.
Les autorités britanniques vont mettre en place un hôpital temporel de 4000 lits dans un centre de conférence à Londres. Le Conseil scientifique sur le Covid-19 en France a estimé indispensable de prolonger le confinement au-delà des 2 semaines. Il durera au moins 6 semaines en tout. Pour sa part, le président américain Donald Trump a mis en garde contre un confinement prolongé aux États-Unis, disant qu'il aimerait lever les restrictions d'ici le 12 avril pour Pâques, estimant qu'une grave récession pourrait faire plus de victimes que le Covid-19, Monsieur Trump a expliqué sur Fox News que l'on ne met pas le pays à l'arrêt alors que la grippe fait 37 000 morts par an aux États-Unis. Les mesures de confinement seront alors réévaluées, a-t-il assuré. Jusqu'ici, le nouveau coronavirus a entraîné la mort de 600 personnes dans le pays.
Et puis, à Zéro-Corée, parlant d'autre chose maintenant, dans le sud de la Guinée, plusieurs personnes ont été tuées dans des violences intercommunautaires depuis le référendum contesté de dimanche. Le gouverneur parle de 3 morts, un médecin et un responsable local de l'opposition font état de 15 personnes tuées. Des bilans contradictoires et qui ne peuvent être vérifiés de sources indépendantes. Zéro-Corée est le théâtre d'affrontements. Depuis dimanche, des habitants ont rapporté être victimes d'attaques et de représailles contre des églises et des mosquées. Un couvre-feu a été instauré hier matin, selon le gouverneur. C'est tout pour ce journal. La Minute Éco, Nanit Talani.
La Tunisie a entamé des négociations avec le Fonds monétaire international pour un nouveau programme de prêts, mais un plan d'émission d'obligations est suspendu en raison du coronavirus, a annoncé le ministre des Finances. Le programme tunisien actuel du FMI, d'une valeur de 2,8 milliards de dollars, devait prendre fin en avril. Mais la Tunisie a convenu avec le FMI de le suspendre. Seulement 1,6 milliard de dollars de ce programme ont été donnés car certaines des réformes souhaitées par les prêteurs n'ont pas été mises en œuvre. L'Afrique du Sud a enregistré une baisse de ses investissements directs étrangers l'an dernier par rapport à l'année précédente. Les entrées de capitaux se sont établies à 68,8 milliards de rands contre 72 milliards de rands, a annoncé la Banque centrale. Les entrées d'investissement de portefeuille qui concernent les devises commerciales, les obligations et les actions ont diminué de façon spectaculaire sur une base trimestrielle à 9,8 milliards de rands au dernier trimestre 2019 contre 40 milliards de rands au trimestre précédent. La Banque de réserve sud-africaine accuse les pannes d'électricité de la compagnie Eskom d'avoir déclenché une faiblesse économique généralisée, tandis que l'impact de l'épidémie de coronavirus commence aussi à se manifester. Pour terminer, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a exhorté les dirigeants du G20 à aider l'Afrique à faire face à la crise du coronavirus en facilitant l'allègement de la dette et en lui fournissant 150 milliards de dollars de financement d'urgence. La pandémie constitue une menace existentielle pour les économies des pays africains, a indiqué M. Abiy. Le lourd fardeau de la dette de nombreux pays africains ne leur permet pas de répondre aux chocs économiques liés à la pandémie, car le coût du service de la dette dépasse les budgets de santé de nombreux pays.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le match Atalanta-Valence, joué mi-février, a représenté une occasion de forte diffusion du coronavirus en Italie, même s'il n'était pas le point de départ de tout, a jugé le maire de Bergame, avant que cette ville de Lombardie dans le nord ne devienne la plus touchée par la pandémie de Covid-19 dans le pays. Son équipe de football, l'Atalanta, a reçu les Espagnols de Valence le 19 février au stade San Siro de Milan, en 8e de finale de la Ligue des Champions. Durant cette soirée, 40 000 habitants de Bergame sont allés à Milan voir le match. Ils se sont regroupés dans le stade. Beaucoup d'autres l'ont regardé chez eux, en famille, en groupe, au bar, multipliant les occasions de contamination, a poursuivi le maire de Bergame. En Allemagne, la Ligue de football va repousser la suspension du championnat jusqu'au 30 avril. Elle fera cette proposition à ses clubs lors de l'Assemblée générale convoquée pour le 31 mars. La dernière assemblée des 36 clubs de première et deuxième division avait entériné une suspension jusqu'au 2 avril. La Ligue répète que son but, si c'est autorisé et évidemment si c'est acceptable en matière de santé publique, est de terminer la saison avant le 30 juin, au besoin en faisant jouer les matchs à huis clos. Et puis, la nouvelle est tombée depuis hier. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont reportés à 2021. J'ai proposé de les reporter d'un an environ et le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a accepté à 100%, a déclaré le premier ministre japonais Shinzo Abe. Après une conférence téléphonique avec M. Bach, président du CIO, il ne manque plus que la validation du comité exécutif du Comité international olympique pour entériner ce report. C'est une première des JO de l'ère moderne en temps de paix. Auparavant, seuls les 2 conflits mondiaux du XXe siècle ont entraîné le report technique puis l'annulation d'Olympiades. Le Japon se préparait à accueillir le plus grand événement sportif de la planète du 24 juillet au 9 août, suivi des Paralympiques du 25 août au 6 septembre. Bien évidemment, les réactions fusent de par le monde après ce report. Les conséquences financières ne sont pas la priorité. Il s'agit de protéger des vies, a laissé entendre Thomas Bache, président du CIO. Ça nous libère d'un poids, s'est réjoui le Français Renaud Lavillenie, multiple médaille olympique de la perche, ajoutant, je cite, « On va pouvoir arrêter cet entraînement bricolage. Le comité olympique de Norvège a salué de son côté une décision intelligente. La Fédération internationale de football a salué le report des Jeux olympiques de Tokyo, assurant que la priorité devait être la santé des personnes concernées par les Jeux face à la pandémie de coronavirus. »
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour et merci pour le journal Idrissa. Madame, monsieur, bonjour. Il est donc l'heure d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Au micro, Jacques Aristide. Nombre d'organisations humanitaires mettent en garde. La pandémie du Covid-19 pourrait avoir un impact dévastateur dans les différents camps de réfugiés dans le monde, disent-elles. L'ONU estime qu'il y a plus de 30 millions de réfugiés dans les quatre coins du globe, dont beaucoup vivent dans des conditions précaires, des conditions qui favoriseraient la transmission du coronavirus. Alors que les pays riches tentent de combattre la maladie, des experts de santé publique alertent sur les effets dramatiques dans les communautés les plus vulnérables à travers la planète. Un sujet d'Henry Ridgewell, récit Claire Morin-Gibourg.
Partout dans le monde, les autorités sanitaires demandent aux gens de rester chez eux, de se tenir éloignés des autres et de faire de l'hygiène une priorité. Mais comment ces règles peuvent-elles être appliquées dans un camp de réfugiés? Beaucoup de réfugiés sont souvent entassés dans des camps et cela fait une grande différence pour la transmission, souligne le professeur Sullivan, spécialiste santé et conflits au King's College de Londres. L'accès à l'eau et à l'assainissement fait également une grande différence. Au Bangladesh, le Cox's Bazar abrite 900 000 réfugiés qui ont fui la violence au Myanmar et qui ne connaissent pas tous le nouveau coronavirus. J'ai oublié le nom du virus, nous a confié un réfugié Rohingya. J'ai entendu dire que la maladie est présente dans différents pays, que des gens meurent. Il faut aussi se laver les mains. C'est un bon conseil, mais les rumeurs ou les fausses informations circulent aussi. Une femme réfugiée Rohingya raconte que cette nouvelle maladie handicape les mains et les pieds, que les blessés se mettent à baver et à aboyer comme les chiens. Les autorités du camp essayent de filtrer tous les visiteurs et les nouveaux arrivants. Les travailleurs humanitaires étrangers doivent surveiller leur état de santé, explique le docteur Kamal Hossein, commissaire adjoint du Cox's Bazar. Il ajoute que les nouveaux employés ne peuvent plus venir de l'étranger. Le camp de Kanke en Irak abrite 15 000 réfugiés yézidis. Des programmes de sensibilisation et de prévention contre le Covid-19 ont été donnés par la fondation Amar. Pour le professeur Sullivan, de nombreux réfugiés et déplacés vivent dans des camps de fortune, très loin de toutes sortes d'aides officielles extérieures, ce qui les rend très vulnérables. Cela comprend les centaines de milliers de personnes qui ont fui le conflit syrien dans la province d'Idleb. Des milliers de migrants sont coincés dans des camps de fortune à la frontière gréco-turque. Beaucoup d'autres vivent dans des camps surpeuplés sur les îles grecques et certaines ONG appellent à les évacuer d'urgence. Au Kenya, le camp de Kakuma abrite près de 200 000 réfugiés où, selon un témoignage, rien n'a été fait jusqu'à présent pour sensibiliser au nouveau coronavirus. De nombreux camps de réfugiés se trouvent dans des pays dont les systèmes de santé sont insuffisants ou manquent de ressources, comme au Kenya, au Bangladesh, en Irak ou au Liban. Même les pays les plus riches ont du mal à faire face au Covid-19. La propagation du virus dans des camps de réfugiés ou de déplacés pourrait avoir des conséquences catastrophiques.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Depuis ce mardi à 0h, les Sénégalais vivent sous le régime de l'état d'urgence, assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Des mesures exceptionnelles prises par le président Macky Sall pour lutter contre la propagation du Covid-19. Les Sénégalais apprécient globalement ce décret présidentiel, mais certains craignent les effets de ces mesures trop restrictives. Le reportage de notre correspondant à Dakar, c'est Dina Bagueille.
Le confinement partiel est maintenant de rigueur au Sénégal avec l'état d'urgence et le couvre-feu décrété par le président Macky Sall. Une mesure naturelle selon Cheikh Sow, un chef de famille de 53 ans. Pour lui, cette mesure s'est imposée à cause de l'insouciance et de l'indiscipline de certains Sénégalais qui n'ont pas respecté les premières recommandations, notamment l'interdiction de rassemblement.
Alors, comme si c'était que les Sénégalais n'ont pas cru cette maladie, mais vu l'éducation du Sénégalais, qui réellement n'arrive jamais à obéir, le manque d'éducation, qui n'ont pas respecté vraiment ces mesures qu'il avait profinées, il a préféré tenir un discours tout en faisant savoir aux Sénégalais que l'heure est grave. Bien sûr, l'heure est grave. Parce que de jour en jour, on voit une maladie qui monte en allure.
Pour freiner cette propagation du Covid-19, des mesures fortes ont donc été prises, mais elles vont malheureusement avoir un impact sur les couches défavorisées de la population. Sohna Maguette Ndiaye, ménagère, affirme que cela risque de pénaliser ceux qui vivent au jour le jour, même si 50 milliards d'aides alimentaires d'urgence sont annoncées.
Je pense que ce sera trop difficile pour nous, mais il est important de se resserrer la ceinture et de s'en remettre à Dieu. Et ceux qui ont les moyens peuvent faire des provisions, stocker cela dans les réfrigérateurs. Et malheureusement pour d'autres, ce sera très très compliqué. Mais aussi, il faut savoir que le président apprécie les mesures pour notre santé et notre bien-être. Donc il faut que chacun fasse des sacrifices, que chacun de nous prenne ses responsabilités. Et je le dis encore une nouvelle fois, ce sera très difficile car nous vivons au quotidien des difficultés pour prendre en charge nos familles et nous ravitailler dans les marchés.
Du côté des PME également, on s'inquiète de la tournure des événements malgré les 1000 milliards de francs CFA qui vont être mobilisés pour aider les entreprises. Madame Traoré, jeune entrepreneur dans le domaine des multiservices, salue la pertinence des mesures annoncées par le chef de l'État mais doute de l'accès aux fonds pour des entreprises comme la sienne.
C'est un point que je ne comprends pas trop. Je ne sais pas comment il va se prendre en tout cas. Moi, je ne pense pas personnellement que je serai concernée et je ne sais pas comment il compte en tout cas partager ces 1000 milliards. Beaucoup de Sénégalais pensaient au confinement général. Mais bon, il a pensé à l'état d'urgence et surtout à un couvre-feu à partir de 20h. Donc c'est quelque chose qui ne devrait pas empiéter un peu sur notre travail du moment où nous travaillons de 8h à 17h. Donc sur ce, je dirais que ça n'empiète pas trop sur notre travail.
Au Sénégal, la lutte contre le Covid-19 a pris une nouvelle tournure avec l'instauration de l'état d'urgence et des mesures qui l'accompagnent. Les Sénégalais sont globalement satisfaits des annonces du chef de l'État Macky Sall, mais ils attendent tous de savoir les conditions précises d'application de ces mesures et leur impact réel sur leur vie personnelle et professionnelle. À Dakar, Seydina Bagueille pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
La pandémie de coronavirus entraîne de nombreuses questions de la part du grand public. Ce matin, nous tentons de répondre à une autre. Quand et comment utiliser un masque? Salwa Jaafari nous énumère à ce sujet les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé.
Dois-je porter un masque pour me protéger? Voici la réponse de l'Organisation mondiale de la santé. Portez un masque uniquement si vous êtes malade avec des symptômes de Covid-19 ou si vous prenez soin de quelqu'un qui pourrait avoir le Covid-19. Le masque facial jetable ne peut être utilisé qu'une seule fois. Si vous n'êtes pas malade ou ne soignez pas quelqu'un qui est malade, vous perdez un masque. Il y a une pénurie mondiale de masques, donc l'OMS exhorte les gens à utiliser les masques à bon escient. L'OMS recommande l'utilisation rationnelle des masques médicaux pour éviter le gaspillage inutile de ressources précieuses et une mauvaise utilisation des masques. Les moyens les plus efficaces pour vous protéger et protéger les autres contre le Covid-19 sont de vous nettoyer fréquemment les mains, de couvrir votre toux avec l'avant-bras et de maintenir une distance d'au moins 1 mètre des personnes qui toussent ou éternuent. Comment mettre, utiliser, enlever et éliminer un masque? Avant de toucher le masque, se laver les mains avec un désinfectant à base d'alcool, du savon et de l'eau. Prenez le masque et inspectez-le pour détecter des déchirures ou des trous. Trouvez le côté supérieur où se trouve la bande métallique. Assurez-vous que le bon côté du masque est tourné vers l'extérieur. Placez le masque sur votre visage, pincez la bande métallique ou le bord rigide du masque pour qu'il épouse la forme de votre nez. Tirez le bas du masque pour qu'il couvre votre bouche et votre menton. Après utilisation, retirez le masque, retirez les boucles élastiques de derrière les oreilles tout en gardant le masque loin de votre visage et de vos vêtements pour éviter de toucher les surfaces potentiellement contaminées du masque. Jetez le masque dans un bac fermé immédiatement après utilisation. Procédez à l'hygiène des mains après avoir touché ou jeté le masque. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool ou, s'il est visiblement sale, lavez-vous les mains à l'eau et au savon.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et retour ce matin sur le décès du célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango, le premier parmi les personnalités mondiales contaminées par le nouveau coronavirus dans les milieux artistiques, sportifs et politiques. Manu Dibango, légende de l'afro-jazz, est mort en France hier des suites du Covid-19 à l'âge de 86 ans. Manu Dibango, auteur d'un des plus grands tubes planétaires de la musique world, Soul Makossa, sorti en 1972. Le morceau qui l'a fait naître et qui a connu un étonnant destin. Ce n'était au départ que la face B d'un 45 tours dont le titre phare était un hymne pour l'équipe de foot du Cameroun à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Au Cameroun, où les hommages continuent d'affluer, Manu Dibango était une fierté nationale dans son pays d'origine. La vie et l'œuvre de Manu Dibango à Yaoundé. Le reportage d'Emmanuel Jeunentap.
On parlait de la musique et puis pour moi c'était une icône et puis je me posais bien la question de savoir mais est-ce que c'est le vrai Manu que j'ai connu quand j'étais à l'école primaire avec qui fou de qui. Ah ben c'est la chanson qui m'a marqué.
C'est le souvenir d'un entretien radiophonique entre l'artiste Manu Dibango et Maximilien Eyatanyasa, ancien et célèbre animateur sous les ondes de la radio nationale. Chouchou est un morceau de Manu Dibango tiré de l'album Les Trésors du Makossa, sorti en 1972. Ce titre témoigne l'ancien animateur de la radio d'État à rajouter au talent de l'artiste déjà bien connu à cette époque.
Il fallait pénétrer l'artiste, il fallait l'approcher, le comprendre, l'écouter, savoir que ici là, c'est vraiment une sommité musicale.
Composé en 1972, le titre Soul Makossa a été repris 10 ans plus tard par Michael Jackson. En 1982, Marcel Ndongo est alors un jeune étudiant camerounais en France.
De lui, moi j'ai eu la chance de le rencontrer une fois sur les Champs-Élysées à Paris pendant que j'étais étudiant. Et dès qu'on criait Manu, quelle que soit votre couleur, quel que soit votre âge, il venait vers spontanément et vous embrassait. Ça nous donnait la fierté au niveau des Européens d'avoir quelqu'un qui leur donnait le pion du point de vue de la célébrité, du point de vue de la réputation mondiale.
Les oiseaux regagnant leur nid.
Aujourd'hui à la retraite, François a été un fan de Manu Dibango depuis sa jeunesse. Il se dit profondément affecté par la chute d'un baobab de la musique made in Cameroun.
Le souvenir que je garde de ce monument de la musique camerounaise est que il était l'un des pionniers de cette musique. Et l'artiste est parti, mais je crois que Manu continue de vivre avec nous.
Aïe, Africa. Aïe, Africa, oh liberté.
La jeune génération n'est pas en reste. Elle rend aussi hommage à un artiste hors pair. Tatiana est élève du cycle secondaire à Yaoundé.
C'est une grande icône africaine qui vient de mourir.
Est-ce que vous pensez que d'autres jeunes Camerounais pourront peut-être chanter comme lui?
Non, je pense pas. Peut-être ils pourront faire à peu près, mais ça ne va jamais atteindre le talent, vraiment le talent même de la...
L'artiste ne meurt pas, le dicton semble si bien s'appliquer au grand Manu Dibango, qui était par ailleurs ambassadeur itinérant, au même titre que le footballeur Albert Ojimi.
Alléluia.
Yaoundé, Emmanuel Jeunetap.
VOA Afrique.
Hommage au Cameroun au grand saxophoniste Manu Dibango. Le monde aujourd'hui prend fin ici. Le journal là, vous a été présenté par Idrissa Seydoudia. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. C'était Jacques Aristide de Washington. Je vous dis take care, prenez bien soin de vous. À très bientôt.